Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nous sommes en guerre.
Moi, je, personnellement, je m'étouffe.
Accélère! Accélère! Ils sont aux ordres du pognon!
Merci.
Faut laisser la star tranquille.
Les Européens de plus en plus pauvres, c'est la conclusion d'un nouveau rapport du Secours Populaire qu'on va donc analyser ensemble aujourd'hui. On parlera aussi évidemment des derniers événements concernant les propos du député du Rassemblement National à l'Assemblée hier. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée d'actualité en une dizaine de minutes. Les Européens sont-ils au bord du gouffre? C'est en tout cas ce qu'affirme une étude réalisée par l'Institut Ipsos et publiée ce vendredi par le Secours Populaire. Une asso donc qui vient en aide aux personnes en situation de précarité partout dans le monde. Alors en tout, 6000 personnes majeures de tous les milieux sociaux ont été interrogées à travers 6 pays européens, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Pologne, le Royaume-Uni et la France. Et le résultat en l'occurrence de cette étude est sans appel. Dans ces pays européens, un habitant sur 4 s'estime en grande précarité et plus largement, plus d'un habitant sur 2 ressent la diminution de son pouvoir d'achat en ce moment. Le pouvoir d'achat étant donc ce qu'on peut acheter par rapport à notre salaire et par rapport au niveau des prix. Alors que dit précisément cette étude importante? Eh bien, pour beaucoup d'Européens, les conditions de vie se sont dégradées cette année. En Grèce par exemple, 51% des personnes interrogées estiment qu'elles sont dans une situation de grande précarité. En France, en Italie, en Pologne ou encore au Royaume-Uni, ce chiffre se situe entre 20 et 25% de personnes en situation de grande précarité. La hausse des prix est évidemment une source d'angoisse supplémentaire en ce moment. La hausse la plus spectaculaire, elle concerne les prix de l'énergie. Le prix du pétrole a ainsi augmenté de 350% entre avril 2020 et avril 2022, selon la Banque mondiale, ce qui a forcément à la fin une conséquence sur le prix de l'essence quand on va l'acheter pour faire le plein. Résultat donc, selon l'étude, les Européens font aujourd'hui des sacrifices sur leur vie. 62% affirment avoir dû réduire leurs déplacements et 47% ont baissé le chauffage pour limiter le prix de la facture avec la hausse des prix de l'énergie. Autre chiffre assez inquiétant, sur les 6 derniers mois, 14% des Européens ont eu un problème de santé et affirment avoir renoncé à se faire soigner faute de moyens. Et par ailleurs, 42% des personnes interrogées ont déjà demandé à leurs proches de leur prêter ou alors de leur donner de l'argent. Et les personnes les plus touchées par cette grande précarité, vous l'imaginez, c'est surtout les jeunes, les personnes âgées et les familles monoparentales, donc les familles avec un seul parent. Mais alors comment en est-on arrivé là alors que l'Europe est l'une des régions les plus riches et les plus développées au monde? Eh bien, il y a plein de raisons et on pourra en parler pendant longtemps, mais la pandémie qui est passée par là et qui a déréglé l'économie n'a pas aidé sur le court terme. Par ailleurs, vous vous en doutez, l'inflation, notamment la hausse des prix de l'énergie, a eu un impact direct et tout cela a été accentué notamment par la guerre en Ukraine récemment. Ce qu'il faut d'ailleurs bien comprendre, c'est que cette hausse des prix, elle est particulièrement présente sur le secteur de l'énergie et sur le secteur notamment de l'alimentation, et c'est deux secteurs qui pèsent énormément dans le budget moyen de familles plus modestes. Forcément, c'est une part importante, plus importante qu'une famille qui serait très aisée, et donc finalement, eh bien, les familles les plus démunies se retrouvent à payer davantage le prix, si on peut dire ça comme ça, de cette inflation. Alors pour vous donner des ordres de grandeur sur cette inflation en Europe, au sein de la zone euro, donc les pays qui ont l'euro comme monnaie, les prix ont augmenté en moyenne de 10% en un an, et le problème donc, c'est que les salaires n'augmentent pas aussi vite que les prix, et donc forcément, les Européens perdent du pouvoir d'achat. Alors maintenant qu'on a dit ça, histoire de ne pas être uniquement sur l'aspect constat qui est forcément pas le plus joyeux, quelles pourraient être les solutions à mettre en place? Alors déjà, plusieurs politiques peuvent être mises en place à l'échelle de chaque pays. Alors évidemment, il y a d'abord des aides aux personnes les plus vulnérables, ce qui a été mis en place dans pas mal de pays européens, évidemment après à des degrés divers et avec des mesures diverses et variées. Un élément qui est pas mal revenu, notamment en France, notamment aussi en Belgique, c'est un chèque énergie, donc l'idée de verser une somme d'argent à une partie au moins de la population pour les aider à payer leurs factures d'électricité de façon assez comparable. Plus généralement en Grèce par exemple, bien les retraités avec une faible pension ont reçu une allocation de 200 euros. Ensuite, au-delà de ces chèques comme ça ou de ces versements d'argent, il y a des réductions temporaires de taxes ou alors des mesures de régulation des prix qui peuvent être mises en place. C'est ce qui a été fait là aussi en France avec la remise sur les prix des carburants ou encore le blocage des prix de l'électricité et du gaz pour les consommateurs. C'est ce qui a été par exemple mis en place par le gouvernement en France avec le bouclier tarifaire. En quelque sorte, la hausse des prix de l'énergie est limitée et bloquée pour que la population n'ait pas d'un coup une facture d'électricité qui fait x10 ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, de telles mesures, c'est ce qui fait que la hausse générale des prix en France est en dessous de la moyenne européenne, autour de 6,2% par an, contre près de 10,5%, je le disais, au sein de la zone euro. Alors ça, c'est des solutions qui sont mises en place à l'échelle de chaque pays. Et évidemment, à chaque fois, elles font débat, notamment pour savoir si elles sont suffisantes. En effet, le plus souvent, la hausse des revenus des Français ne va pas aussi vite que l'inflation. Mais donc, certains se posent la question de savoir s'il faut mettre en place des solutions communes à tous les États de l'Union européenne, comme par exemple un salaire minimum européen, donc un salaire minimum d'un même montant qui serait garanti pour tous les citoyens européens. Alors c'est une idée qui fait beaucoup débat. Par exemple en France, le gouvernement estime que ça n'a pas de sens selon eux, car le niveau de vie n'est pas le même partout en Europe. Par ailleurs, au-delà de la question de la position de la France, la question c'est de savoir où se situe justement ce salaire minimum. Est-ce qu'il est similaire à celui qu'on a en France, similaire à d'autres pays? Est-ce qu'il est au contraire plus faible? En tout cas, c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Une autre mesure potentielle sur les salaires qui a été beaucoup évoquée, ce serait l'idée d'indexer automatiquement les salaires sur la hausse des prix, comme c'est déjà le cas d'ailleurs en France pour le salaire minimum. Aujourd'hui, en fait, le SMIC, donc le salaire minimum, est indexé sur la hausse des prix. Donc s'il y a une hausse des prix, une inflation de 5%, le SMIC augmente à la même vitesse. L'idée donc qui est portée là par certains partis politiques, notamment à gauche, ce serait de faire en sorte que les entreprises soient obligées d'augmenter les salaires en fonction de l'inflation. Mais là aussi, c'est une mesure qui fait fortement débat. Le gouvernement français, par exemple, y est opposé. Il estime que ce n'est pas le rôle du gouvernement de fixer les salaires des entreprises privées et que le gouvernement doit simplement être dans une logique d'incitation à augmenter ses salaires. Bref, ce qui est sûr, c'est que l'inquiétude sociale est très grande à l'approche de l'hiver. Certains spécialistes estiment que des Français et plus largement certains Européens devront choisir dans certains cas entre se chauffer ou se nourrir. Ça me semblait donc important d'en parler aujourd'hui sur le constat forcément, mais aussi sur les solutions potentielles et les débats autour. Je vous mets le lien évidemment de l'étude en description si vous voulez plus d'informations. Je vous laisse tout de suite avec Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après avec le flashback du jour.
Merci Hugo, on commence avec cette première actu. Le député du Rassemblement National Grégoire de Fournas a été condamné à la sanction maximale possible par le règlement de l'Assemblée Nationale pour ses propos tenus jeudi après-midi. Cette sanction, elle s'appelle la censure avec exclusion temporaire. Concrètement, il va être suspendu de l'Assemblée pendant 15 jours et son salaire va être divisé par deux pendant 2 mois. Cette sanction, elle a été décidée par le bureau de l'Assemblée qui est constitué de 22 députés dont la présidente et les 6 vice-présidents, puis elle a été validée par un vote à la majorité à l'Assemblée. Alors ces propos, vous les avez forcément vus passer, notamment si vous suivez notre compte Insta, lors d'une intervention du député de la France Insoumise, Carlos Martins Bilongo, qui prenait la parole au sujet de migrants bloqués sur un bateau en mer. Grégoire de Fournas a crié qu'il retourne en Afrique, sans vraiment que l'on sache s'il visait le député lui-même ou les migrants.
Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout.
Lui affirme que sa phrase a été détournée, qu'il parlait des migrants au pluriel. Mais de son côté, la France Insoumise l'accuse de propos racistes contre son député. Mais dans tous les cas, en dehors du Rassemblement National, l'ensemble des partis à l'Assemblée jugent que ses propos sont intolérables et racistes, même dans le cas où il visait les migrants au pluriel. Deuxième actu, toujours en France, on voulait vous parler de la contestation qu'il y a en ce moment autour d'un projet de méga-bassine. Ça se passe dans le village de Sainte-Soline, dans le département des Deux-Sèvres. Alors une méga-bassine, c'est un énorme réservoir d'eau artificielle qui doit servir à fournir de l'eau aux agriculteurs. Sauf que depuis samedi, des milliers de défenseurs de l'environnement et aussi des élus se sont rendus sur le site du chantier pour le bloquer, alors que l'accès au chantier est théoriquement interdit. Ils estiment que ce projet de méga-bassine favorise l'agriculture intensive et est nocif pour l'environnement. Et en fait, face à ces tentatives d'intrusion sur le chantier, des centaines de gendarmes ont été envoyés pour sécuriser le site, et des affrontements ont alors eu lieu entre les policiers et les manifestants. Ces affrontements, ils ont fait une cinquantaine de blessés chez les manifestants, selon les organisateurs de la manifestation, et 61 blessés du côté des gendarmes, selon le ministère de l'Intérieur. Ce qui fait débat, donc, c'est la question du projet en lui-même, de son impact sur l'environnement, c'est aussi la question question du droit de bloquer des projets de manière potentiellement illégale quand ils pourraient menacer le climat. Et enfin, dernière chose qui fait débat, c'est la participation à cette manifestation de plusieurs élus et députés. Il y avait par exemple la députée écologiste Sandrine Rousseau. En effet, certains estiment qu'un député n'a pas à manifester de la sorte dans une manifestation qui avait été interdite par la préfecture. Mais au contraire, d'autres estiment que c'est la démocratie de pouvoir manifester par tous les moyens contre un tel projet. Troisième actu, cette fois à l'étranger, le chef du gouvernement allemand Olaf Scholz était en visite en Chine ce samedi. C'est à la fois marquant parce que c'est le premier dirigeant européen à se rendre en Chine depuis la pandémie de Covid, mais c'est surtout marquant parce que cette visite est controversée à la fois dans son pays, à la fois en Europe et à la fois aux États-Unis. Alors sur le papier, ça peut être difficile de comprendre pourquoi un dirigeant allemand qui se rend en Chine en soi, c'est assez commun. Et la précédente chancelière allemande, Angela Merkel, s'était d'ailleurs rendue 12 fois en Chine lors de ses 16 ans au pouvoir. Mais cette fois, eh bien le contexte est un peu différent pour plusieurs raisons. Déjà, certains critiquent le fait qu'Olaf Scholz se rende en Chine 10 jours seulement après la fin du congrès du Parti communiste chinois, où le président chinois Xi Jinping a vu ses pouvoirs renforcés comme jamais et où il a de nouveau fait part de sa volonté de reprendre l'île de Taïwan, ce à quoi les États-Unis sont fermement opposés. Ensuite, deuxième raison qui fait que cette visite d'Olaf Scholz en Chine est critiquée, c'est que plusieurs pays européens lui reprochent d'agir seul, sans collaboration avec l'Union européenne, alors qu'ils estiment qu'aujourd'hui, en fait, il faudrait plutôt parler à la Chine d'une seule voix pour peser davantage face à la Chine. Et donc, par exemple, Emmanuel Macron aurait plutôt souhaité une visite commune de plusieurs chefs d'État européens en Chine. D'autant qu'en fait, lors de cette visite d'Olaf Scholz en Chine, eh bien, plusieurs investissements chinois en Allemagne vont être négociés, notamment dans le port de la ville de Hambourg et dans une entreprise allemande de microprocesseurs. Le truc, c'est que ces derniers temps, eh bien, les pays européens avaient plutôt affirmé leur intention de limiter leur dépendance à la Chine, notamment en ce qui concerne des infrastructures stratégiques comme celle-ci. Direction les États-Unis, cette fois pour la quatrième actu. Ça concerne l'ancien président américain Donald Trump. Ce jeudi, lors d'un meeting, il a affirmé qu'il allait, je cite, « très très probablement se représenter à la présidentielle américaine de 2024 ».
I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably.
Alors on savait déjà qu'il était tenté de se représenter, mais c'est la première fois qu'il l'affirme aussi clairement, et ça arrive dans un contexte particulier, où la semaine prochaine se tiennent aux États-Unis les élections de mi-mandat, où une partie du Parlement va être renouvelée. Cinquième info, à partir de ce vendredi à 9h10, les femmes travaillent gratuitement en France, et ce jusqu'à la fin de l'année. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? En fait, c'est une communication qui vient de la newsletter féministe Les Glorieuses et qui vise à dénoncer l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Les Glorieuses obtiennent en effet cette date en se fondant sur l'écart de salaire horaire brut moyen entre les hommes et les femmes. En effet, selon Eurostat, eh bien les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins par heure travaillée en France. Alors il faut noter, comme chaque année, que la méthode de calcul de cette date est assez contestée, pour plusieurs raisons, notamment par rapport aux emplois à temps partiel, qui sont davantage occupés par des femmes. Je vous mets le lien d'un article du Monde en description si vous voulez en savoir plus là-dessus. Quoi qu'il en soit, face à ce chiffre, plusieurs militantes féministes réclament une revalorisation des salaires dans les métiers et les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses, notamment dans les secteurs du soin et de l'éducation. On termine avec une dernière info en tech. Une vague de licenciements a démarré ce vendredi chez Twitter suite à l'arrivée du nouveau patron, le milliardaire Elon Musk. Alors on va connaître dans le week-end l'ampleur exacte de cette vague de licenciements, mais selon le média américain The Washington Post, près de la moitié des 7500 salariés de Twitter vont être licenciés, sachant que plusieurs sont déjà partis de leur propre fait et qu'Elon Musk a déjà licencié plusieurs hauts responsables de l'entreprise la semaine dernière. Bref, comme attendu, l'arrivée d'Elon Musk provoque d'énormes remous en interne chez Twitter, y compris d'ailleurs chez les salariés qui restent. Beaucoup craignent de ne plus pouvoir travailler de chez eux en télétravail parce qu'Elon Musk est un opposant affiché au télétravail. D'autres craignent de devoir suivre des cadences infernales comme chez Tesla, l'entreprise de voitures électriques dont Elon Musk est aussi le patron. Voilà, c'est tout pour ces actualités en bref. Merci de les avoir suivies. Je vous laisse avec Hugo.
Alors, on termine la semaine aujourd'hui avec un petit retour dans l'histoire, petit flashback. On le fait pas chaque jour, mais quand il y a des trucs intéressants, on le fait. Aujourd'hui, retour sur un anniversaire très marquant. Il y a 100 ans, très exactement, le 5 novembre 1922, eh bien, le tombeau du pharaon égyptien Toutankhamon était découvert en Égypte. Et cette découverte est considérée comme la plus grande découverte archéologique de l'histoire. Elle revient en fait à l'archéologue britannique Howard Carter. Félicitations à lui. D'ailleurs, fait assez intéressant, ça a donné lieu à toutes sortes de spéculations, de malédictions, car plusieurs personnes qui ont pénétré dans le tombeau ou inspecté la momie sont mortes subitement dans les années qui ont suivi. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mets en description notamment un podcast d'Affaires Sensibles de France Inter, un podcast toujours passionnant et qui revient justement sur cette histoire.
Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.